Voilà, je suis garée là.
Mais attends, c'est le nouveau Volvo EX30. Waouh, t'as une promotion?
Non, pourquoi?
Non, mais t'as gagné le gros lot.
Non.
Le Volvo EX30, quoi.
Accédez à l'excellence avec le nouveau Volvo EX30. Le SUV compact 100% électrique à partir de 295€ par mois.
EX30 Single Start, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 6 000€, si accord Volvo Car Finance, jusqu'au 31 décembre. Conditions sur volvocars.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h42, ils sont très en forme ce matin, les esprits libres sur Radio Classique avec nous, l'avocate pénaliste Sophie Obadia et Marc Lambron de l'Académie française. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ou alors on en parlait il y a quelques instants, il y a un parfum de défiance croissante dans nos politiques. C'est la tendance dressée ce matin par le Conseil économique, social et environnemental. Vous retrouvez les conclusions dans le Parisien. Un quart des Français pensent que la démocratie n'est pas le meilleur système politique, même 31% chez les moins de 35 ans. Bon, c'est quand même assez stupéfiant. Il y a une réaction de votre part.
Oh, ça s'appelle un néo-poujadisme. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Et quand on voit au Parlement tout de même un spectacle assez navrant, c'est-à-dire que le LFI qui transforme l'hémicycle en une sorte de ZAD sonore, d'un côté, et que de l'autre côté, vous voyez que le RN, en ce moment, dans le procès des assistants parlementaires, piétine absolument toute la règle de droit, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, il y ait cette... Alors, il y a un épisode de l'histoire française où, en effet, la démocratie a été annulée en donnant les pleins pouvoirs à un maréchal. On peut s'en souvenir. Voilà. Donc, Vichy est-il notre horizon? Est-ce que nous allons vers l'Allier? Je veux dire le département,
oui, oui.
À suivre.
Sophie Obadia.
Bon, moi, je suis sidérée qu'on puisse à ce point cracher sur la démocratie. Déjà, le sondage, c'est un premier travail démocratique. Donc, on devrait se féliciter de pouvoir répondre à ces questions. C'est assez obscène, en réalité, de pouvoir dire la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes. Alors, quel est-il? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Rien de mieux. Rien de mieux. Donc je pense que nous sommes arrivés à une époque d'enfants gâtés et nous sommes tous fatigués. La démocratie est fatiguée, mais je pense qu'on va la régénérer et qu'on ne va pas la réinventer, ni même la remplacer. En tout cas, je l'espère.
Oui, avec des fantasmes de perspective, parce que ce sont souvent les mêmes qui, par exemple, tiennent que le 49-3, qui est parfaitement constitutionnel, serait liberticide. Oui.
Donc, paradoxe.
Il y a des illusions d'optique et des paradoxes. Oui.
Alors, il y a de la politique à l'Assemblée nationale, en librairie aussi, actuellement, une actualité qui vous a sans doute pas échappé. Elisabeth Borne publie aujourd'hui son livre « 20 mois à Matignon ». Elle l'éparpille façon puce, le sexisme en politique, son éviction par Emmanuel Macron, et puis surtout, elle prend date pour la présidence du parti Renaissance. Ce qui nous amène à cette question, mais enfin, pourquoi les politiques, écrivent-ils, tout le temps des livres? Qui veut répondre?
On va faire un peu de zoologie littéraire. Oui. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a les livres tracts pour des révolutions d'Emmanuel Macron en 2016. C'est clairement programmatique. Mais plus sérieusement, la France est quand même un pays de politique littéraire. Vous voyez, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et Giscard d'Estaing qui a jugé utile de se faire élire à l'Académie française. Donc il y a un surmoi livresque. Et Mitterrand disait, quand on passe de la littérature à la politique, on tombe de 4 étages. Alors certains, tout de même, savent écrire. Donne un exemple, Bruno Le Maire, par exemple, qui écrit lui-même ses livres, ce qui peut être signalé, et au fond, comme diariste, comme romancier, vous savez qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, aurait dans ses tiroirs un roman inachevé sur les Aztèques. Donc il s'intéresse aux conquistadors, ce qui n'étonnera personne. Et puis il y a une dernière chose, une dernière catégorie, c'est les mémoires. Vous voyez bien que les anciens présidents, notamment les présidents Hollande et Sarkozy, multiplient les ouvrages, autant sculpter sa propre statue plutôt que de laisser, par exemple, aux magistrats du parquet national financier le soin de le faire.
Oui, et là, on a l'impression que pour Elisabeth Borne, c'est un mix entre tout ça, effectivement.
Voilà, oui.
C'est-à-dire
confessions,
ce qui, personnellement, me gêne toujours un peu, puisque je ne pense pas que les hommes politiques soient des rockstars ou des personnages publics dans ce sens-là. Effectivement, l'aspect programmatique manque sans doute un peu. S'agissant de Bruno Le Maire, l'inquiétude quand même, c'était comment pouvait-il à ce point écrire et travailler en même temps? Nous nous sommes tous posé la question, je crois.
Il préfère les lettres aux chiffres?
Je le crois, je le crains. Et enfin, je crois que va bientôt paraître un livre qui s'appelle « L'art de perdre en politique ». Celui-là va m'intéresser parce qu'effectivement, je crois qu'on ne peut pas tout faire et qu'il vaudrait mieux se concentrer. Concernant Mme Borne, je n'ai rien contre l'ancien Premier ministre qu'elle est. Mais je ne suis pas certaine d'abord qu'elle rencontre un lectorat important. Il faudrait regarder quels sont les chiffres des ventes de ce genre d'ouvrage. Je crois qu'il y a eu quelques succès, notamment Nicolas Sarkozy, on s'en souvient. Mais après, c'est un genre qui n'intéresse pas tant que cela. Et encore une fois, Je préfère le programmatique, même si le livre d'Emmanuel Macron en 2016 était entre le programmatique et le rêve, je dirais. Donc c'est une forme de programme avant l'heure, mais très, très peu détaillé. Je l'avais lu à l'époque et on reste là aussi sur sa fin. Voilà.
Il y a un très bon écrivain qui a été ministre des Affaires étrangères, il s'appelle Chateaubriand, on peut le relire aussi.
Voilà, c'est très bien, oui.
Une valeur sûre, oui, effectivement. Un mot de l'actualité judiciaire aussi, actualité très chargée en ce moment, mais l'actualité judiciaire, Sophie Obadia, vous vouliez réagir à ce jugement à l'encontre de Nicolas Bedos, un an de prison, dont 6 mois avec sursis pour agression sexuelle. Les avocats des victimes parlent d'une peine à valeur pédagogique. Ça vous fait bondir cette histoire?
Bondir, pas nécessairement. Il est vrai que, alors, on parle du laxisme judiciaire. Là, vous avez parfaitement l'exemple inverse.
Le contre-exemple, oui.
C'est un contre-exemple, c'est-à-dire que c'est 6 mois avec sursis probatoire, obligation de soins, inscription sur le fichier des personnes auteurs de violences sexuelles, avis, marqué avis. J'ajoute qu'il y a exécution provisoire, ce qui est rarissime, c'est-à-dire que même s'il fait appel, il doit porter le bracelet électronique, même s'il fait appel. Donc, c'est une peine lourde, inédite. Ça, c'est certain. Donc, le laxisme judiciaire, en tout cas, ne passe pas par Nicolas Bedos. Les faits, nous les connaissons plus ou moins. Il s'agirait d'une main sur une entrejambe et puis d'un baiser dans le cou dans une soirée. Donc, dans le fameux continuum que nous avons tous accepté, celui des violences sexistes et sexuelles, que je conteste. C'est-à-dire, je pense que ce sont deux mondes séparés. Nous sommes en bas du continuum, c'est-à-dire ce sont des infractions, des faits de faible intensité. Mmh. Je ne les nie pas, bien au contraire, mais ils sont de faible intensité et ils sont punis très sévèrement. Nous sommes à Paris, où les punitions en matière de violences sexuelles sont élevées, car l'exemple passe par la capitale. Pour le coup, c'est très centralisé, puisque en province, les décisions sont différentes. Alors, il sera donc assigné à domicile sous surveillance électronique. C'est donc très infamant. Ça n'est pas rien que de porter un bracelet électronique, surtout quand on est une personnalité publique. Je peux vous dire que tout le monde regardera sa cheville dans la rue s'il a le malheur de sortir. Ce qui m'a également gêné, c'est la manière dont on a raconté l'audience en disant, oui, quand la victime a dit, j'ai vu dans les yeux de cet homme qu'il était dangereux, une forme de théâtralisation. Je ne le connais pas, mais je vois qu'on sort dans la presse la violence extrême qu'il pourrait représenter, la dangerosité qu'il pourrait représenter. Donc ça me gêne un peu, mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours comme ça pour les audiences pénales.
Mais bien sûr.
Alors sur l'exemplarité, puisqu'en fait c'est ça, on parle d'exemplarité, c'est une peine pédagogique. J'ai d'ailleurs trouvé que l'avocat des victimes était plutôt bon, très très bon dans son expression vis-à-vis de la presse. Est-ce que l'exemplarité, c'est une notion judiciaire? Moi, je préfère la proportionnalité, vous l'avez compris. Donc, je ne suis pas révoltée. Hein. C'est une décision qui a certainement été mûrie par les magistrats, je n'ai rien à en dire.
Pour vous, on a voulu faire une jurisprudence, quoi. C'est
une jurisprudence, voilà. Assez, encore une fois, parisienne, pour une personnalité un peu emblématique d'une génération entre deux âges, 45 ans. Et donc, je pense que Marc Lambron va en parler. Oui. D'autres hommes sont dans le viseur. En tout cas, malheureusement, il ouvre une période difficile en matière, encore une fois, d'agression sexuelle. C'est une petite agression sexuelle. Encore une fois, je ne la nie pas, mais je dis qu'elle est petite sur le plan de l'échelle des peines. Mmh. Donc voilà, la proportionnalité a certainement été mal regardée de ce point de vue. Et ce sera le travail de la Cour d'appel. Mais voilà, nous sommes dans une époque difficile pour les hommes.
Marc Lambron.
Alors, on va faire ça de façon un peu de sociologie romanesque et d'égo-histoire. Il se trouve que j'ai côtoyé, comme ça, quand je sortais la nuit, maintenant je dors, vous savez, des garçons qui s'appelaient Nicolas Bedos, Frédéric Becbédé, Édouard Baer. Et je vais témoigner pour eux en disant que des jeunes filles tournaient bien volontiers autour de ces garçons. Très bien. Il se trouve que les trois, aujourd'hui, ont maille à partir avec la justice. Alors, Frédéric Becbédé, il a été blanchi. La sentence, en tout cas en première instance, vient de tomber pour Nicolas Bedos. Et Édouard Baer, je crois que
L'enquête est en cours.
C'est en cours. Ça, oui. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il se passe que nous avons là des adolescents, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des Peter Pan, qui rentrent dans l'époque MeToo. Et je pense qu'ils sont en déphasage psychique, c'est-à-dire qu'ils ont accédé à l'âge de la séduction dans les années 80. Et les années 80, d'un côté, c'était une certaine muflerie masculine, façon Wall Street, Gordon Gekko, Michael Douglas, et puis de l'autre côté, de leur côté à eux, c'était plutôt des manières de garçons de bain qui plotent les filles en ricanant. Bon, c'était leur façon de faire, elles se prolongent aujourd'hui, et je dirais qu'ils payent les manières de leur âge. Autrement dit, tout le monde vieillit, et même les Peter Pan et même les adolescents, fût-ce devant un tribunal, doivent amèrement le constater.
Oui, je pense que c'est assez bien compris, c'est ça. C'est effectivement la fin d'une époque. Alors, certains vous diront d'insouciance, de fêtard, parce que la défense quand même de Nicolas Bedos, c'est de dire, à la fois d'ailleurs, j'étais tellement ivre que je ne m'en souviens pas, mais je n'ai pas pu le faire. Donc effectivement, on est dans une espèce de toute puissance adolescente, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui devient maintenant un peu hors d'époque.
Oui, donc, ils ont fonctionné par un mélange d'ébriété et de dérision.
Oui, c'est ça.
Donc les choses étant prises...
Aujourd'hui, l'époque est sérieuse.
Ben, l'époque
très sérieuse.
Et à cet égard, elle est sérieuse. Bon, après, il y a un appel à venir. Nous verrons, comme vous l'avez dit.
Alors, on va terminer en musique et en film, hein, si vous le voulez bien. On en parlait juste avant avec Hervé Gattegno, sorti en salle du film Monsieur Aznavour, de Mehdi Idir, Grand Corps Malade, biopic sur les débuts du chanteur jusqu'à la gloire. Est-ce que vous avez vu le film pour l'instant? Vous n'êtes pas allé en salle, non?
Pas encore, je peux vous chanter de l'Aznavour comme je vous ai tout à l'heure.
On en chantera, vous chantez très bien d'ailleurs.
Mais je n'ai pas vu de film. Non, mais on voit bien les raisons pour lesquelles beaucoup de choses se cristallisent sur Aznavour. Si vous voulez. C'est un Français exemplaire venu d'ailleurs. Il y a l'Arménie, donc il y a des histoires de migration et d'ailleurs de martyrologe. Deuxièmement, je crois que pour moi, Aznavour, c'est l'homme de la disgrâce surmontée. Au fond, opération esthétique, sa voix, elle était estimée assez laide dans les années 50, et puis le crooner, le micro, au fond. Et au fond, nous avons tous des disgrâces à surmonter. Donc je crois qu'on peut se projeter sur lui à cet égard. Troisièmement, vous écoutez ses chansons, c'est souvent, pour ne pas dire le pauvre type, mais l'uomo qualunque, comme disent les Italiens, c'est-à-dire l'homme du commun. Je bois, tu te laisses aller, je n'ai rien oublié. Et d'ailleurs, biographiquement, on dit que Aznavour a été beaucoup plaqué par ses femmes jusqu'à Ulla, qui est cette Suédoise qu'il épouse dans les années 60, mmh. et là pour 4 décennies de félicité. Je dirais qu'il y a encore deux choses qui l'eût cru, mais le côté inclusif, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une chanson comme ils disent quand même, c'est une chanson qui, venant d'un mâle alpha, dit beaucoup sur l'homosexualité. Et puis, dernière chose, c'est la dimension, la stature internationale. C'est-à-dire, nous, on ne le mesure pas forcément.
Mais non, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est vrai.
Mais c'est le côté Liza Minnelli. Par exemple, il y a une chanson, She, d'Aznavour, qui a été un succès nord-américain et même au-delà. Et en France, c'est pas celle qu'on connaît le mieux. Donc il y avait tout ça, il y a une vraie polymorphie.
On connaît Formidable, à la limite, quoi, voilà, dans la version anglais-français, à la limite. Voilà.
Et ce qu'on connaît moins, d'ailleurs, c'est les très belles chansons qu'il écrit pour les yéyés. Retiens la nuit, pour Johnny Hallyday, ou La plus belle pour aller danser, de Sylvie Vartan, qui co-signe avec son beau-frère, Georges Garvarentz. Donc il a aussi inspiré, ou en tout cas nourri, une partie de la génération qui est venue après la sienne.
Mais c'est vrai qu'on retient quand même d'Aznavour ce côté intransigeant, travailleur, assez dur quand même, malgré tout.
Ce qu'on pourrait retenir pour la matinale de Radio Classique, oui. C'est « Un beau matin, je m'éveillerai différemment de tous les autres jours ». Le début de « Et pourtant ». Et ça, vous pourriez le mettre comme emblème ou logo.
On va essayer de la trouver, cette chanson. On va essayer de la glisser d'ici la fin de l'émission, Sophie Obadia.
Oui, moi je trouve que ce que dit Marc est intéressant sur dépasser la disgrâce. Parce que c'était également le cas d'Edith Piaf qui m'émeut au-delà de tout. C'est-à-dire que c'est une disgrâce, Edith Piaf. Et comme Aznavour, ce sont deux merveilleux chanteurs. J'aime aussi beaucoup l'acteur. Pour moi, dans le tambour... L'amant et cet enfant qui ne comprend pas la situation quand sa mère va dans la boutique de ce juif et qui est son amant, pour moi, c'est une scène qui a marqué mon enfance et mon adolescence. Mmh. Et pour moi, Aznavour, c'est aussi un grand acteur avec un mystère comme ça, de quelqu'un de humble, avec ce physique et cette disgrâce. Il en a fait aussi un jeu au plan cinématographique qui était très intéressant.
Extrêmement convaincant, j'ai trouvé fou là aussi, tiré sur pianiste.
Oui, et puis il est monté dans un taxi pour Tobrouk, en plein désert. Mais il n'a pas chanté dans le désert.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle, on n'a pas retrouvé la musique dont vous parliez, Marc. Mais on va finir par une autre chanson.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. le cœur léger.
Et pourquoi pas un karaoké sur Radio Classique, ça serait pas mal finalement pour finir, pour finir la journée, la matinée. À la baguette. Sophie Obadia, Marc Lambron, merci à tous les deux d'être venus ce matin nous rendre visite. Excellente semaine à tous les deux. 8h56 sur Radio Classique. Dans un instant, le flash de 9h.